Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le numéro 238 aujourd'hui, après une semaine relativement chargée puisque je viens de terminer 2 jours de formation avec 2 invités en la personne de Florence Morisseau et Alexandre Germain dans le cadre d'un module qui était proposé par la clinique du coureur du côté d'Orléans. Comme j'ai l'habitude de le faire dans mon métier d'enseignant, se former, progresser, revoir certains schémas, casser certaines certitudes, eh bien, c'était tout l'enjeu de ces 2 journées de formation qui ont été pour moi très enrichissantes et c'est avec un grand plaisir que j'ai pu croiser Florence et Alexandre en chair et en os parce que la dernière fois que nous nous étions croisés, c'était par la visio et par cet écran interposé. Alors, je ne sais pas si de votre côté, vous avez déjà pris part à des formations en lien avec ce domaine de connaissances, passion que peut être la course à pied, que ce soit sur le plan biomécanique, sur le plan de l'entraînement, sur le plan de la nutrition. En tout cas, je vous encourage, comme j'ai pu le faire pendant ces 2 jours, à suivre ce type de formation pour gagner en compétences et enrichir vos bibliothèques personnelles de compétences. Et dans ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, nous allons nous plonger dans l'univers inspirant de Vanessa Morales. Vanessa est infirmière et athlète d'endurance passionnée par des courses de montagne et les expéditions en haute altitude. Vous allez donc découvrir son histoire, de ses premiers pas dans la station de Font-Romeu à ses incroyables défis sur des sommets tels que le Kilimandjaro, sur lesquels elle accompagne également des personnes atteintes de maladies graves dans des aventures qui défient la vie, comme elle vient de le réaliser avec Olivier et son fils. Vanessa, dans cet épisode, nous partage ses stratégies de préparation, son protocole d'entraînement, mais aussi son goût pour la haute montagne, tout comme le coût de ses expéditions exigeantes, ainsi que ses futurs projets à l'horizon 2025 avec une tentative de record sur l'Aconcagua en Amérique du Sud. Dans cet épisode, vous découvrirez son approche humaine, son humilité face à la montagne. Vanessa montre une réelle soif de vivre et ses réflexions sont profondes sur la puissance du sport comme un moyen de se sentir vivant et de se connecter avec celles et ceux que nous avons perdus. Alors si vous souhaitez soutenir Vanessa dans ses aventures futures, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux qui figurent dans les notes de l'épisode. Je vous laisse donc découvrir le portrait de Vanessa Morales, le souffle de la vie au sommet du Kilimandjaro. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Vanessa, bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu de hauteur et d'altitude puisque tu as une particularité, c'est d'être experte dans la course à pied en montagne. Et après quelques jours passés en Tanzanie, comment vas-tu? Comment apprécies-tu le climat français avec cette fraîcheur encore hivernale?
Bah écoute, tout d'abord bonjour. Effectivement là, je rentre fraîchement de Tanzanie puisqu'il y a 2 jours encore, j'étais à Moshi. Et à Moshi, il faisait 30 degrés quand je suis partie et à l'atterrissage à Toulouse, on avait 11 degrés. Donc c'est une grosse claque climatique et c'est dur d'atterrir quoi, vraiment.
On reviendra sur ce pourquoi cette aventure du côté de la Tanzanie tout à l'heure. Est-ce que tu peux Vanessa te présenter? Pour que les auditeurs puissent savoir qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie.
Alors, moi, je suis originaire de Font-Romeu. Donc déjà, gros avantage dans la vie d'une sportive. J'ai fait mes premiers pas là-haut. Donc moi, j'ai commencé le sport par le patinage artistique. Et en gros, c'était un peu, pour moi, le patinage, c'était un sport, mais c'était surtout mon projet de vie. Donc j'espérais devenir une Soria Bonali, une patineuse professionnelle, voilà. Et la vie a voulu que ça se passe pas comme ça, puisque j'ai développé un syndrome d'éloge bilatéral au niveau des deux jambes, en fait, des périostes très jeunes, à l'âge de 16 ans. Donc ça a mis une rupture avec ce sport dans lequel j'évoluais pas trop mal. J'étais en sport études, voilà, au CNEA Font-Romeu. Et puis bon, ben donc rupture avec ce sport. Là, j'avais deux choix qui s'offraient à moi. C'était soit sortir dans les bars, les discothèques et partir du côté obscur, ou trouver l'échappatoire que j'ai pu trouver dans la montagne. Donc c'était de courir en montagne. Alors pour moi, c'était pas du tout un sport. C'était vraiment, comme je l'ai dit, l'échappatoire et un médicament plus qu'autre chose. Et en fait, assez progressivement, ben, ça en est devenu ma façon de vivre, de m'exprimer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que je vis en partie de cette passion. Et l'autre partie, ben, c'est mon métier d'infirmière, voilà, qui me permet de vivre, on va dire, professionnellement parlant.
Pourquoi ce métier d'infirmière ? Tu aimes être au service des personnes que tu peux accompagner et soigner au quotidien ?
Oui, ça aussi, je pense que ça fait partie de ma pièce d'identité. En fait, très jeune, ben, quand j'ai dû arrêter le sport-études, je suis partie dans le sanitaire et social. Et donc là, j'ai commencé par les diplômes aide médico-psychologique, aide-soignante. Et puis après, j'ai basculé en tant qu'infirmière. Et j'ai également été sapeur-pompier pendant 15 ans. Donc en fait, moi, je trouve que la vie, quand on la partage pas avec les autres, ben, c'est un peu nul, en fait. Donc du coup, ben, je partage mon savoir de soignante. Maintenant, j'ai la chance aussi de partager mon sport avec des personnes malades. Ouais, en fait, ma pièce d'identité, c'est montagne et soins, quoi.
Est-ce que tes parents étaient dans le domaine sportif et t'ont très jeune bercé dans ce milieu de la montagne? Tu le disais, hein, être finalement né du côté de Font-Romeu, avoir pratiqué les sports de glisse, que ce soit le patinage ou peut-être le ski. Est-ce que tes parents étaient eux-mêmes sportifs et attirés par ces grands espaces et ces grandes randonnées que tu peux mener aujourd'hui?
Alors ma mère, elle a longtemps travaillé sur les pistes de ski. Nous, en fait, avec ma sœur gamine, c'était la garderie, c'était les pistes de ski, quoi. Pendant que maman travaillait, ben nous, on skiait toute la journée et c'était normal. Et puis après, elle a été gymnaste aussi pendant des années, donc au lycée de Font-Romeu aussi, elle avait un très bon niveau en gymnastique. Et mon père, lui, est plutôt alors très montagnard, ça c'est indéniable, mais moins dans la performance, quoi. Lui, il va aller chercher des champignons, enfin voilà, mais très montagne quand même. Mais c'est vrai que chez nous, le sport, c'était pas waouh. Même quand je suis rentrée avec quelques chronos sympas sur un kili ou des trucs comme ça, mais dans ma famille, il y a personne qui me dit waouh, mais c'est génial. En fait, le sport, chez nous, ça a toujours été un travail, un moyen de rentrer de l'argent. Donc, même moi, quand je disais que je voulais être patineuse professionnelle, en gros, c'était OK, mais t'as intérêt à en vivre, quoi. Tu vois, il n'y avait pas cette notion de « Oh, super, on va venir te voir en spectacle, c'est génial ». Non, non, c'était OK, tu fais ça, mais c'est pas un loisir, quoi. Donc, on a été un peu enseigné à la rude école au niveau sportif, quoi.
Donc, tu n'as pas eu forcément l'occasion de briller aux yeux de tes parents, même avec ces performances et ce record du monde, on le verra tout à l'heure, sur l'ascension du Kilimandjaro. Pour eux, c'était normal. C'est Vanessa qui part sur une longue sortie et qui redescend au point de départ.
Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, mon papa, il est un peu, lui, il veut me préserver. Donc, c'est toujours attention, tu me fais peur. Voilà, il n'y a plus ça. Que le waouh, c'est génial. Après, je pense aussi que c'est un sport où quand on n'est pas dedans et qu'on vit pas ces ascensions à haute altitude et tout ça, on peut pas forcément se projeter sur ce que ça représente. Parce qu'au final, on se dit bah c'est quoi 44 km, 4000 et quelques de D+ et de D-, ok, ça paraît pas fou. Mais en fait, quand on le vit, je pense que là, on prend conscience de ce que c'est. Et donc ouais, il y a un peu de recul. Mais d'ailleurs, tu vois, enfin, j'ai une anecdote. Qui est assez fraîche. Il y a 2 ans, je pars en montagne avec mon chien et mon chien suit des isards. Donc, il se barre sur une face nord gelée. C'était en plein hiver. Puis, j'étais pas équipée pour de l'alpi du tout puisque je partais courir. Et je décide de suivre mon chien, sauf que je me mets en galère. On se retrouve tous les deux bloqués sur une paroi. Et là, j'arrive pas à téléphoner au PG et j'envoie un texto à ma sœur avec mes coordonnées GPS et je lui dis... Audrey, envoie-moi un hélico parce que je suis vraiment dans la galère, je suis bloquée sur la falaise avec le chien et il me faut des secours. Elle me dit, ok, tiens-moi au jus quand t'es au parking, à toute. Donc, si tu veux, il n'y a aucune notion de... Elle n'a pas eu peur, elle n'a pas... Tu vois, c'est normal. C'est OK, je t'envoie l'hélico et puis tu me rappelles après, quoi. Tu vois. Donc, quand je leur dis, ouais, je vais courir sur le Kili ou sur une autre montagne, OK, bah, tu nous tiens au jus. Voilà.
Est-ce que tu as eu d'autres frayeurs comme celle-ci? Et on va en parler, hein, sur l'expérience de la montagne pour appréhender peut-être ces courses, ces ultras. Tu me diras si tu as pris part peut-être du côté de Font-Romeu à des trails, parce que c'est de là, hein, qu'est née peut-être ton envie de courir. Est-ce que des dangers comme celui que tu évoques avec ton chien, tu en as connu d'autres qui aujourd'hui forgent une expérience? Tu l'as dit, hein, il faut connaître la montagne et il ne suffit pas de dire « je veux monter jusqu'en haut » pour que ça puisse se réaliser. Il y a quand même un terrain à appréhender et c'est peut-être pas à la portée de tous.
Ben, face à la montagne, il faut toujours rester humble, en fait. Elle sera toujours meilleure que nous. Et oui, j'ai eu d'autres expériences, hein, où j'ai été héliportée une autre fois, où je me suis pété un bras, en fait, en courant comme une débile en descente. Voilà, j'ai glissé dans une rivière, je me suis explosé un coude. Ben voilà, et là, on se dit, ben, s'il n'y a pas les secours, je reste dans ma rivière, et puis je sais pas, s'il fait très froid. Enfin, bon, voilà, donc l'accident peut très vite arriver. Ben, la météo change aussi très rapidement. Enfin, il faut toujours être en capacité, je pense, de s'adapter et savoir rester à sa place. Quand la montagne décide qu'on passe pas, ben on passe pas. Puis c'est pas renoncer, c'est juste savoir reporter.
Ton expérience d'infirmière doublée de 15 années au niveau des sapeurs-pompiers, est-ce que ça te donne un bagage quand même assez solide pour aborder ces sorties de façon sereine? Ou est-ce que tu as toujours cette appréhension, cette notion du danger que certains mettent parfois de côté au fond de ta tête en me disant, bon, je sais que à cet endroit-là, ça peut être un petit peu compliqué et il faut quand même que je prenne mes précautions?
Alors, en fait, la casquette d'infirmière, elle est un peu particulière chez moi parce que je pense beaucoup aux autres. C'est-à-dire que là, par exemple, sur mes expéditions sur le Kilimandjaro, je suis H24 en train de calculer. Réfléchir à pourquoi lui se comporte comme ça, pourquoi lui il est pas bien, machin, là. Donc en fait, je suis un peu un mécano, quoi. Tu sais, il y a un truc qui va pas bien, donc je vais penser à réparer, voilà. Et moi, je m'oublie complètement. Et sur mes courses, ben c'est un peu la même. Je suis capable de passer à côté de symptômes me concernant qui peuvent être alors grave. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, j'ai tendance à pas du tout m'écouter parce que justement, si je commence à m'écouter, ben je vais penser au pire. Donc je fais abstraction de tout ce qui peut me toucher et je me dis bon allez, je m'occupe des autres et ça passe mieux comme ça.
Tu parlais d'échappatoire. Cette course à pied en montagne est pour toi quelque chose qui te permet de t'évader. En quoi la montagne t'apporte ce moment un peu de liberté dans ton quotidien et dans ton mode de vie, hein. On le disait en off, cette pratique de la montagne et de la haute montagne, c'est aujourd'hui ton mode de vie.
Ben en fait, j'ai l'impression que c'est le seul endroit où j'ai le droit de m'exprimer, où je sais que je suis à ma place. J'ai rien à prouver à personne. Tu vois, je fais pas partie des superbes athlètes françaises. Je suis pas une élite du trail français. Je suis pas une championne du monde du trail. Voilà, pas du tout. C'est pas du tout ma quête non plus. Par contre, c'est mon moyen, ma façon d'exister et d'assumer ce que je suis, d'assumer ma différence. J'ai des délires montagnards qui sont un peu atypiques. Je sais que j'ai le droit de le faire. Là-bas, il y a personne qui va me dire quoi que ce soit, qui va me juger parce que mon short est pas beau, parce que mes baskets c'est pas les derniers, tu vois. Et c'est ouais, je me sens chez moi, quoi. Puis tu sais, il y a aussi autre chose qui me rapproche vraiment de la montagne et surtout des hauts sommets. J'ai perdu ma maman il y a 13 ans d'un cancer et elle est partie très rapidement, donc ça a été super violent. Et en fait, plus je monte et plus j'ai l'impression de me rapprocher d'elle. Donc il y a vraiment cette sensation. Quand j'arrive en haut, que je commence à m'étouffer parce que la pression atmosphérique, elle écrase mes poumons et tout, et je me dis, tu vois, là, tu respires et t'es proche de ta mère. Voilà. Donc c'est très spirituel, mais voilà, c'est ce que je ressens. Ouais.
Et le fait d'accompagner des personnes qui sont également, alors soit en situation de maladie, de handicap, c'est aussi un moyen pour toi de transmettre ta passion et d'avoir ce fil conducteur peut-être avec ta maman que tu aurais peut-être aimé accompagner sur de telles aventures?
Oui, carrément, il y a un lien. Hein. Comme on dit dans le médical, souvent, on n'est pas là par hasard. Et en fait, le fait de proposer, de vivre ces choses-là à des personnes malades, c'est que moi, la première, c'est l'endroit où je me sens vraiment vivante. Donc, ces gens qui sont malades, en gros, j'ai envie de les embarquer pour leur dire, viens, fais-moi confiance, tu vas te sentir vivant comme jamais là-haut. Et pour le moment, c'est en tout cas ce qui ressort de ces expéditions et c'est super fort, quoi. Puis moi, ça m'aide aussi à relativiser ma situation quand on se plaint parce qu'on a un bobo, parce que, ben voilà, tu te dis, regarde, lui, il a fait le kili alors que, enfin voilà, il a une pathologie qui lui pourrit le quotidien, quoi.
Alors, de ces entraînements en montagne, du côté de Font-Romeu, tu dis, hein, je suis pas une athlète professionnelle, je suis pas quelqu'un qui va briller sur telle course ou telle course parce que j'ai peut-être pas le niveau. Comment tu expliques d'avoir cette capacité à courir donc dans des altitudes qui sont très élevées où l'oxygène va manquer et que sur des altitudes plus basses, tu sois pas en mesure d'exploiter ce potentiel que tu as quand tu gravis les sommets?
Alors déjà, moi, il y a un truc qui me paralyse. C'est le dossard, clairement. Et en patinage, j'avais le même problème. C'est-à-dire que 10 jours avant une compète, je pouvais me rendre malade. Et là, c'est la même chose. Et pourtant, j'ai 40 ans et je me dis qu'à un moment donné, je vais mûrir et que ça va se tasser. Mais non, c'est j'ai vraiment la peur du dossard, la peur de me comparer aux autres. J'ai vraiment un problème avec ce truc de comparaison. Il m'arrive de faire des superbes belles courses, tu vois. Je cours chaque année en Italie où je claque un podium féminin, tout ça. Et même là, je me dis, ouais, mais c'est parce que les autres devaient être fatigués. Tu vois, c'est pas grâce à moi. Et ouais, il y a un peu un syndrome de l'imposteur, j'en sais rien. Mais ouais, je me rends malade pour une course, alors que quand je pars courir à haute altitude, ben, je sais que je suis un peu toute seule et que ça m'appartient. Tu vois, il y a encore aussi ce truc de la peur d'être du regard de l'autre. Et puis, j'ai la chance de me comporter super bien à haute altitude. Encore là, la semaine dernière, on arrive au sommet, puis je suis la seule à, tu vois, à courir partout. Il y en a qui dégueulent, il y en a qui sont vraiment en vrac, qui ont du mal à marcher, et puis moi, je cours, quoi. Et ben, merci papa, maman, pour m'avoir filé des gros globules rouges. Mais voilà, ouais, j'ai de la chance, donc j'en profite.
Tu t'es penché un petit peu sur cet aspect physiologique pour comprendre un petit peu comment ton corps fonctionnait. Là, tu parlais, je suis la mécano au niveau du corps, hein, en tant qu'infirmière. Est-ce que tu as poussé un petit peu plus tes expérimentations pour comprendre comment ton corps fonctionnait avant d'appréhender ces expéditions sur les hauts sommets à travers la planète?
Honnêtement, non, parce que déjà, j'ai découvert ça vraiment par hasard, hein, parce que je savais pas que je pouvais courir à 5000 ou 6000 mètres d'altitude. Je l'ai découvert grâce à une jeune femme qui rêvait de faire le Kilimanjaro, qui était atteinte de sclérose en plaques. Et en fait, on avait écrit un projet commun où je devais l'accompagner sur le Kili. Et il se trouve que dans l'année, elle a décidé de renoncer à ce projet parce que la pathologie, puis des problèmes perso. Et moi, je me suis dit, bon, écoute, avec cette jeune femme, on devait le faire en 10 jours. Ben, moi, je vais essayer de le faire en courant, je sais pas, sur un jour, 2 jours. Je savais pas du tout de quoi j'étais capable. Et quand je vais sur Google, là, je vois que Fernanda Maciel s'est collée au Kilimanjaro en courant, que Christina Schumason aussi, qu'il y avait plusieurs filles qui s'étaient collées au Kili en courant. Je me suis dit, bon, moi, j'ai pas du tout leur niveau. Je vais voir, tu vois. Je vais tenter de le faire sur une journée, même si c'est 24 heures, je serai déjà super contente. Et en fait, ben, le Kili, je le sors en 11h30 et voilà, sur une voie où le record était en 13h30. Mais vraiment, c'était une découverte, quoi. J'avais pas la prétention d'aller chercher un chrono au départ. Et c'est quand je suis partie m'entraîner sur le Kili où mon entraîneur m'a dit, mais attends, Vanessa, moi, je suis au repos, je suis à 80% de saturation. Toi, elle est forte, t'es à 92. Donc, il y a un problème. Et si tu veux, c'est comme ça qu'on a compris que j'arrivais à vraiment bien m'oxygéner à haute altitude. Je désature très peu. Et en fait, j'arrive, je pense, à continuer à envoyer de l'oxygène dans mes muscles là où certains vont pas avoir cette capacité. Alors comment l'expliquer, honnêtement? Pour le moment, j'ai pas forcément envie de comprendre, j'ai juste envie de profiter. Et on verra plus tard à la retraite.
Cette tentative, 11h33, c'était ta première montée ou tu avais déjà peut-être une expérience au préalable, parce qu'il y a peut-être un moment où il faut s'acclimater, un temps où on va peut-être pendant quelques jours, quelques semaines, courir en franchissant des paliers. Comment cette montée vers le Kilimanjaro et vers le sommet s'est produite et s'est passée? Est-ce que c'était ta première?
Pas du tout. En fait, ça a été une brave galère pour que j'aille chercher ce record. Parce que la première année, donc en 2019, je me prépare à fond. C'est un an de préparation, un an axé que sur le Kili. Je vais m'entraîner en Tanzanie. Donc là, je fais le Kilimanjaro par la Western Bridge, qui est la voie la plus technique, on va dire, du Kili. Et là, sur les 4 jours d'entraînement, ça se passe super bien. Je suis avec un guide, puisque le parc national impose les guides locaux, hein, chose que je respecte tout à fait. Et mon guide, pareil, en fait, lui, il avait joué le jeu, il s'était entraîné toute l'année. Et donc, quand on arrive le jour du record, ben moi, je suis hyper confiante parce que donc Ronald, le fameux guide, pendant les 4 jours, avait vraiment assuré. Il était même meilleur que moi. Et donc, le jour J arrive, donc toute mon équipe, mon entraîneur, les caméramans, parce qu'il y avait un suivi de dingue, tout le monde était positionné sur la montagne. Et là, ben, le jour J, rien ne se passe comme prévu, puisqu'on arrive à 5300 mètres d'altitude en 5 heures. Donc, on partait de 1006, je crois. 1006, on arrive à 5003 en 5 heures. Donc, super content parce qu'on savait que le chrono, il était pour le moment, en tout cas, super bien engagé. Et là, Ronald me fait une ischémie digestive. Donc, un gros problème digestif sur la Western Bridge. On ne pouvait pas descendre parce qu'il fallait un petit peu désescalader. C'est hyper casse-gueule. Il y a des avalanches de pierres et tout. Donc, en fait, on se retrouve bloqué, pas de secours, grosse galère. Le médecin nous avait bien briefé en nous disant que si on montait très vite à haute altitude, c'était très bien, mais qu'il fallait redescendre très vite en cas de pépin, parce que sinon, dans les 45 minutes, on allait développer, lui et moi, un œdème pulmonaire ou cérébral ou les deux. Donc là, en fait, c'est la casquette d'infirmière qui prend le dessus sur la sportive. Je mets stop à mon chrono parce que je me dis, bon, de toute façon, c'est mort. Ronald, il était affalé par terre. Je vous passe les détails, mais il était vraiment malade. Pas bien du tout. Puis il me dit, bah écoute Vanessa, laisse-moi ici. Aujourd'hui, je dois mourir et puis c'est pas grave quoi. Il me dit, il y en a d'autres qui sont restés là. Donc toi, continue ton record. Je veux pas te gâcher la journée. Sauf que là, je dis, bah non, Ronald. Enfin nous, on fonctionne pas comme ça. Donc je vais pas te laisser. et là, bon, grosse galère pour continuer à monter jusqu'au sommet. En fait, il fallait basculer sur le cratère ensuite vers le sommet. Et là, je dis à Ronald, bah, écoute, de toute façon, il y a le médecin au sommet qui nous attend. Donc, dès qu'on arrive en haut, t'es sauvé. Il te médicalise, on s'occupe de toi et après, on redescend. Sauf que quand on arrive au sommet, bah, il n'y a pas de médecin. Parce que le médecin, il a développé un œdème pulmonaire en nous attendant trop longtemps là-haut. Donc, il a été évacué de l'autre côté de la montagne. Et donc là, la grosse galère, en fait, j'essaie de rassurer Ronald comme je peux. Il a les yeux qui sortent de la tête. Il manque d'air. Enfin, vraiment, il n'est pas bien. Et le seul remède au mal aigu des montagnes, c'est la redescente. Donc là, on peut redescendre puisqu'on a basculé sur la voie Mueca. On redescend, tout le monde arrive en vie, on voit le médecin, on lui met de l'oxygène à fond, bon voilà. Donc là, on fait un kili en 12h30. Donc c'est pas un record du monde. De là, je rentre en France, je vais courir sur le Mont Olympe pour essayer de me changer les idées. Et puis en 2021, ben, je reviens sur le kili. Et là, le parc national, cette fois, me dit, bon, écoute, t'as failli tuer un guide la dernière fois, donc là, on t'impose 2 guides. OK, donc là, je fais un premier kili en 10 jours pour m'acclimater, puis j'accompagne Julien Védani, un jeune homme qui a atteint de sclérose en plaques sur son expédition. Donc là, c'est 10 jours d'entraînement à fond, 10 jours d'acclimatation nickel. 4 jours après, donc, je tente le record, sauf que là, ben, sur mes 2 guides, les 2 explosent. Donc, il y a Ronald, le pauvre, qui était encore là, qui explose à 4000 mètres d'altitude. Donc là, c'est vraiment popcorn, il fait demi-tour, il descend. Et mon deuxième guide qui explose à 5000. Donc là, ben, je me retrouve sur la Western Bridge, on a un brouillard givrant de dingue, il fait super froid. Et j'attends mon guide pendant 1 heure à plus de 5000 mètres d'altitude. Donc là, ça commence à piquer sévère, j'ai quelques signes justement de MAM qui s'installent. Malgré tout, tout le monde arrive en haut, en vie, en bas, en vie, mais c'est un kili en 15 heures. Donc, toujours pas de record. Et là, il me reste 4 jours en Tanzanie. Et du coup, moi, je me dis, attends, je vais pas rester au bord de la piscine, aller me promener, non, hors de question. Donc, il y avait des journalistes là de Stade 2 à cette période avec moi. Et Aurelio Valentino, mon superbe pote qui me suit, le pauvre, qui subit mes projets, qui est caméraman et un super athlète. Et là, je leur dis, bah, les gars, j'y retourne demain. Donc, en fait, je me suis tapé 3 Kilimanjaro sur moins de 9 jours. En 8 jours, en fait, j'ai fait 3 fois le kili. Et le dernier kili que je vais chercher, déjà, j'annonce à tout le monde que ça va être impossible. Je me dis, mais t'es malade, tu peux pas refaire le sommet. Tu l'as fait il y a 2 jours, j'étais éclatée, j'étais fatiguée et tout ça. Et en fait, ben, ce jour-là, je pars à l'arrache. Je prépare mon sac vraiment au dernier moment. Alors, Aurélio, il est suisse. Et puis, il dit, oh, tu fais chier, je vais te suivre. Il avait pas trop envie. Mais en fait, il est tellement génial qu'il est venu. Et là, on se fait un quiddy en 11h33. Voilà. Donc, c'était un peu barjot de prendre le risque d'enquiller trois kiddies comme ça. Mais c'est passé. Donc, écoute, il fallait le faire, quoi.
Quand tu redescends, quelles ont été tes pensées, tes émotions par rapport à ce record? Tu te dis, bon, je suis complètement folle. J'ai quand même bravé les différentes, pas interdictions, mais mises en garde des locaux. Hein. Un guide dans un premier temps, puis deux guides. Et là, tu es partie toute seule.
Je suis partie toute seule avec Aurélio. Les guides, en fait, prenaient des relais. Ils étaient posés sur les camps de base et en fait, ils se relayaient sur chaque camp. Donc, ils avaient plus la pêche que moi. Ils étaient acclimatés. Donc là, ça a super bien fonctionné. Après, moi, j'ai quand même eu un moment de culpabilité parce que je me suis dit, purée, c'est mon délire, mais je veux pas tuer des gens, quoi. L'idée, c'était pas de mettre à mal des guides locaux. Ils veulent tout donner, ils veulent vraiment nous faire plaisir. Donc, ouais, j'ai eu un peu de culpabilité quand même par rapport à ça. Et après, j'avais un petit truc amer aussi parce qu'en fait, ce record, j'ai été le chercher sur la voie Mueca. Mais le record quand même qui est plutôt cool, c'est celui de la Western Bridge. Et celui-là, j'ai échoué deux fois parce que des problèmes de guide et voilà. Il est encore un peu dans un coin de ma tête. Si un jour j'ai le temps, peut-être que j'y retournerai.
Donc, on est comme sur le Mont Blanc. Il y a différentes voies pour accéder oui. au sommet. Et là, toi, tu es record woman de cette montée vers le Kilimandjaro. Qu'est-ce que ça t'a apporté derrière? Est-ce que tu as eu les lauriers? Là, tu dis, il y avait une caméra. Est-ce que ça a donné suite à des reportages, à une visibilité un petit peu plus grande sur ce que tu mènes? Donc là, pas en France, mais à l'étranger, du côté de la Tanzanie.
Alors oui, ça m'a pas mal aidé. Hein. J'ai eu un Stade 2, j'ai Canal Plus qui m'a beaucoup suivi aussi. Donc oui, effectivement, ça m'aide à trouver des partenaires aussi et à en vivre un peu plus. Après, on va dire que j'ai pris un peu de notoriété, mais ça a pas non plus été la folie. Une fois que c'est passé quoi.
Quand tu es rentrée à la maison, que ce soit ton mari, ta famille, tes proches, tu es maman, donc peut-être tes enfants, qu'est-ce qu'ils ont eu comme mot pour toi? Félicitations ou c'était maman, elle a été au travail, elle a monté le Kilimandjaro, elle est redescendue.
C'est un peu ça. En tout cas, concernant les enfants ou la famille, ouais, c'est super, ok, c'est fait, on passe à autre chose. Malgré que je pense qu'ils sont quand même très fiers et voilà, mais on a pas fait une grosse fiesta en tout cas pour fêter ça. Mon mari, lui, c'est vraiment ma force. Hein. On va dire que dans chacun de mes projets, il est là sur la préparation, sur. Tout à l'heure, on parlait justement en off de l'organisation, mais sans lui, tout ça, ce serait pas réalisable parce qu'il faut gérer une maison, des enfants, il faut gérer. Lui, il bosse aussi en parallèle et les entraînements où il est super présent sur mes entraînements. Donc, en gros, ces records-là, c'est aussi pour lui et grâce à lui, quoi.
Tu parlais d'acclimatation, justement, du côté de la Tanzanie pour franchir des paliers et pouvoir finalement supporter ces montagnes et ces élévations, on va dire, très, très rapides. Tu as mis un an pour te préparer. Tu disais une expédition, c'est environ un an de préparation. Sur le Kilimandjaro, quel type de terrain tu trouves? Parce que tu dis être capable de courir tout du long, à droite, à gauche, dans tous les sens. On est sur un ancien volcan. Quel va être le profil? Tu disais de la roche, de la glace. Il y a le froid également, peut-être à gérer. Comment tu appréhendes et est-ce que tu peux décrire un petit peu pour les auditeurs les conditions et le terrain de jeu que tu trouves du côté de l'Afrique?
Alors, en fait, dans les premiers jours, on va dire, ça se court pas mal parce que c'est du sentier. Puis, alors, le premier jour, tu es dans la jungle. Donc là, il y a beaucoup de végétation, tu as les singes et tout, c'est génial. Tu gardes un peu de fraîcheur parce qu'on est vraiment protégé par l'humidité de la jungle et les arbres. Après, on bascule sur une zone qui est un peu plus aride. On est aux alentours de 4000 mètres, pardon, assez rapidement. Donc là, il y a un peu moins de végétation. C'est un peu plus aride, mais t'as encore des oiseaux, tu vois, encore un peu de vie. Et après, on bascule sur ce qu'on appelle le désert alpin. Donc là, c'est vraiment pelé. T'as plus une fleur, plus une plante. Le froid est là. Alors le soir surtout, hein, ça commence à geler. Donc là, il faut au niveau respiration surtout gérer. Moi, par exemple, tu vois, sur les expéditions classiques, ce qu'on fait, c'est qu'on monte tous ensemble au premier camp et puis moi, je vais courir. Pendant que les autres s'installent et se reposent, ben moi, je vais courir. Et ça fait partie de mon acclimatation. Et je fais ça sur chacun des camps de l'expé. Donc toute la semaine, en gros, sur tous les camps, ben, je vais faire mon petit footing voilà quotidien et ça me permet de m'acclimater. Et du coup, ben, plus tu montes et plus tu diminues ton allure de footing parce que ben, au niveau respi, c'est plus la même. Hein. T'as la pression atmosphérique et le froid qui joue beaucoup. Moi, le froid, ça a tendance pas mal à me déclencher des petites crises d'asthme. Donc ça, j'y fais super gaffe. Et après on bascule donc le jour du sommet, on est vraiment sur de la terre volcanique et là c'est un peu galère parce que tu fais un pas en avant et deux en arrière. Donc ça se court absolument pas. Par contre en descente c'est génial parce que tu skis quoi. C'est plein de talons et tu réfléchis pas jusqu'à ce que tu sortes de cette zone là. Mais en montée ouais tu cours pas tout le temps. Hein, tu marches beaucoup d'ailleurs hein, toute la montée c'est quelques petites relances mais vraiment c'est appui sur les bâtons pour le coup et tu marches, ouais.
Et en termes de matériel, parce que tu l'évoques, c'est une montée, c'est une course. Tu n'as pas le même matériel que quelqu'un qui partirait sur une randonnée avec peut-être des doudounes, des anoraks bien plus rembourrés. Là, tu avais quoi comme tenue? Est-ce que tu as souffert du froid? Est-ce que tu as encore toutes tes phalanges, que ce soit aux mains et que ce soit aux doigts de pied?
Ben, en fait, donc je l'ai fait trois fois en courant, ce qui vit. Et les trois fois, je suis partie pas très couverte parce que l'avantage de le faire comme je le fais moi, c'est que quand j'arrive au sommet, il est aux alentours de 13 heures. Alors, c'est un avantage, mais pas que, parce que sur la Western Bridge, par exemple, avec le dégel, ben, les pierres tombent plus facilement que quand tu grimpes en pleine nuit. Donc, il y a ce danger, on va dire, qui est un peu plus présent. Mais au final, tu souffres moins du froid. Après, par exemple, sur ma deuxième fois en courant, là j'ai eu super super froid parce que je pense qu'on avait du moins 10 avec un vent terrible et un brouillard givrant. Et nous, on avait prévu de faire up and down rapidement et ça s'est pas passé comme ça. Donc en gros, je pars quand même avec un gros sac de trail avec mon camel. Dedans, j'ai toujours un coupe-vent, une petite doudoune, de l'eau. Parce que l'eau, c'est quand même le secret de la réussite, ça va être la flotte. Moi, perso, je sais que passer 5000 mètres, j'arrive plus à manger. Donc, il faut au moins que j'arrive à jouer sur l'hydratation avec les électrolytes et resucrer un peu éventuellement. Donc, j'ai l'eau. Après, sur les camps de base, en général, on laisse des ravitaux. Donc là, je vais récupérer des bananes. Ça dépend de ce que j'ai envie de manger. Mais il peut y avoir des œufs, il peut y avoir des trucs, un peu de tout. Moi, je tourne beaucoup à la banane sur le Kili. Et après, c'est sûr qu'on essaie de partir le plus léger possible. Le truc qui est un peu difficile à gérer, c'est l'eau parce que passer 5500, elle gèle. Donc, t'as aussi des petites fioles qu'on essaie de planquer pour garder toujours un peu d'eau. Et puis c'est à peu près tout. Un surpantalon. La première fois, j'étais partie avec un surpantalon, mais ça rajoutait du poids. Puis au final, je l'avais mis très peu de temps. Donc, les fois d'après, je l'ai plus pris. En fait, chaque fois, je réadapte aussi, quoi.
En termes de chaussures, tu as des chaussures de trail conventionnelles ou est-ce que tu as un modèle vraiment spécifique pour la montagne et la haute montagne?
Là, je cours avec des. Je suis chez Mammouth là. Merci Mammouth de me suivre. Et en fait, c'est des chaussures avec la guêtre intégrée. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que c'est des chaussures de trail. Donc tu cours. Ça reste hyper dynamique et en plus de ça t'as la guêtre parce que quand tu redescends quand t'enlèves la pompe t'as 1 kg de terre volcanique dedans donc là t'es à 0,5 kg du coup avec la guêtre ça limite quand même tout ça et elles tiennent un peu plus chaud que les chaussures de trail classiques. Les premières années je les avais faites avec des chaussures de trail vraiment très très classiques mais il fait froid et on a froid aux pieds.
Et la partie alimentaire, tu disais être fan des bananes, est-ce que tu as adopté une stratégie vraiment spécifique? Est-ce que c'est un des points clés pour arriver en bonne forme jusqu'au sommet, même si la problématique liée à l'eau, ce gel dans les hauteurs, peut être une difficulté que tu as su peut-être contrer, justement?
Alors, moi, c'est un peu la cata. Au niveau alimentation, j'ai pas du tout de plan. Je fais vraiment à l'envie, parce que sinon, je sais que je m'écœure vite et qu'après, j'arrive plus du tout à m'alimenter. Donc je fais vraiment avec l'envie du moment. Donc, moi, je tourne beaucoup avec des fruits secs, des barres de céréales et les fruits. C'est vrai que moi, je suis une grande fan de fruits. Sauf que ben, le fruit, il faut faire gaffe aussi. Tu vois, en Tanzanie, il y a beaucoup de pastèques. Alors, j'en mangerai à tous les ravitaux. Mais la pastèque, ça peut vite te filer mal au bide. Donc, ouais, je tourne beaucoup à la banane, mes barres de céréales et puis mes amandes, mes noix. Voilà. Et après, dans l'eau, j'ai les électrolytes. Mais en alimentation, j'ai zéro plan et du coup, j'ai zéro conseil à donner parce que ça change d'une course à l'autre. Ça va être complètement différent tout le temps.
Au niveau donc de cette montée, on enchaîne ensuite tout de suite avec la descente. Qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi ? Est-ce que c'est de remonter avec petit à petit de l'oxygène qui vient à manquer ou la descente qui est peut-être plus rapide mais peut-être plus technique avec la fatigue et moins de lucidité ? Comment tu aborderais cette montée, cette descente ? Qu'est-ce qui est le plus simple sur ce Kilimandjaro ?
Alors pour moi, spontanément, le plus simple, c'est la descente. Ça, c'est vraiment mon point fort. C'est une descente là que j'arrive à sortir en 3h30 en partant du sommet jusqu'à la dernière porte. Et vraiment, je la subis pas, cette descente. Après, le passage le plus difficile pour moi, il est au-dessus de 5500 mètres d'altitude, on va dire, où là, faut continuer à avancer si possible en gardant le même rythme parce que c'est ce qui joue sur le chrono. Moi, je suis pas une bonne grimpeuse, donc en gros, quand ça monte, je m'accroche aux filles de devant. Donc là, il y a personne le jour du Kili, mais j'ai le chrono de Christina, par exemple, ce jour-là. Voilà. Et moi perso, ouais, la montée c'est rude, mais plus dans les cuisses qu'au niveau physiologique, je pense. Hein. Ça me le fait un peu sur toutes les courses. Donc ouais, sans hésitation, la descente, je préfère la descente.
Le fait d'avoir réalisé tes premiers pas en montagne du côté de Font-Romeu, tu vois ce que j'appelle ce pied entre guillemets que les trailers peuvent avoir, de savoir où poser la chaussure. Moi qui habite dans le Loiret, c'est plat comme une table. Les expériences en trail que j'ai pu faire n'ont pas été concluantes parce qu'on n'a pas l'habitude de mettre nos chaussures sur un terrain un petit peu rocailleux, de savoir où poser le pied, comment anticiper. Est-ce que ça, tu le travailles ou est-ce que naturellement, tu l'as en toi et tel un chamois, on va te voir gambader et passer de pierre en pierre?
C'est rigolo ce que tu dis, tel un chamois, parce qu'en Tanzanie, on m'appelle « mountain goat ». Je suis la chèvre des montagnes. Je sais pas comment le prendre, mais voilà, j'aime bien. Mais en fait, non, je réfléchis absolument pas. En descente, parfois, j'ai des allures qui sont complètement folles et ça m'a coûté d'ailleurs un bras pété. Enfin voilà. Mais ouais, non, je pense que j'ai cette chance de pas me poser de questions en descente et mon pied se pose en général au bon endroit. Après, on n'est pas à l'abri d'une chute, mais après, je fais un peu de travail neuro depuis quelques années quand même, qui aide. À garder la lucidité, à faire les bons choix au bon moment et tout ça. Mais je pense que ouais, c'est le pied montagnard qui est là parce que j'ai appris à marcher sur des cailloux. Quoi. Autant tu me mets sur un marathon ou sur du plat, j'ai une foulée qui est catastrophique. J'ai fait de l'athlétisme pendant 10 ans, mais mon entraîneur, le pauvre, il a plus de cheveux quoi à cause de moi, tu vois.
Parce qu'avec cette capacité à emmener des globules jusqu'au sommet du Kilimandjaro sur un terrain plat au niveau de la mer, ça devrait envoyer quand même.
Ouais, mais non, je suis pas une rapide. Moi, je suis un tracteur, tu sais. Je peux courir pendant 40 heures, ça me pose pas de problème. Par contre, dès qu'on me demande d'aller un peu trop vite, j'aime pas, quoi. Les sensations de lactique, envie de vomir à l'arrivée, tout ça. Je l'ai fait, hein. Mais bon, c'était avant, comme on dit.
Et sur ces épopées, donc, de longue distance, hein, tu l'évoquais, 44 km, 4000 mètres de dénivelé positif. Faut redescendre. Donc, il y a aussi le négatif. À quoi tu penses ? Est-ce que le mental va avoir une grosse part dans la performance que tu as pu réaliser, dans les expéditions que tu mènes aujourd'hui ? Est-ce que tu le travailles, ce mental ?
Alors, le mental, sur des objectifs comme ça, c'est pour moi 80% de la réussite. Mon entraîneur, il me dit souvent, t'es plus forte dans la tête que dans les jambes, et il a vraiment raison. Tu vois, par exemple, comme tu disais, c'est donc sur 44 km, en fait, tu sais que t'as 22 bornes de montée, 4295 de D+. Et une fois que tu as fait ça, tu sais que tu as 22 bornes de descente et 4295 de D-. Mais en fait, moi, je le découpe. Tu sais, je découpe mon parcours et je me dis, tel tronçon, tu le fais en temps de temps, il y a que ça. En fait, je relativise tout le temps. C'est-à-dire que le premier tronçon, c'est quoi ? Il y a 11 bornes avec, 1000 mètres de D+, voilà, c'est rien. Allez, hop, ça passe. Et puis le deuxième, je vais faire pareil. Du coup, le fait de découper, ça paraît être, c'est le même objectif, le même tracé, mais moi, j'ai l'impression que, bah, en fait, c'est rien, c'est que plusieurs petits objectifs, tu vois. Mais après, oui, j'ai une prépa mentale aussi, depuis peu, hein, mais, ça, c'était plus pour les courses. Tu sais ce que je te disais tout à l'heure, le fait d'avoir peur de m'aligner sur des courses parce que ça me paralyse, clairement. Ben, j'ai un peu travaillé sur ça au départ pour les courses et puis, au final, ça me sert énormément pour mes expés ou mes courses à haute altitude.
Le rapport 80-20 est quand même important, hein. C'est quand même une grosse part de mental. D'où vient cette force mentale? Où est-ce que tu puises finalement tes ressources? Est-ce que tu l'as un petit peu travaillé avec cette préparatrice qui peut t'accompagner?
Alors au départ, je pense que j'allais chercher, mais au mauvais endroit. C'est-à-dire que c'était un petit peu de la colère. C'était ouais une histoire de vie douloureuse, des passages dans mon enfance douloureux aussi. La perte de ma maman, tu sais, j'allais vraiment chercher quelque chose de très profond, mais j'étais capable d'aller me faire très mal, voire trop mal. Tu vois, je pouvais vomir du sang et continuer à courir 15 heures. Donc là, maintenant, j'ai quand même changé. Et merci à Nathalie qui me suit au niveau prépa mental, parce que je pense que j'aurais pu faire vraiment des grosses conneries. En fait, maintenant, j'ai appris à aller chercher le pourquoi je suis ici. Et les bonnes raisons, en fait. C'est, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, j'ai rien à prouver à personne, et même maintenant, j'ai plus rien à me prouver à moi, et j'ai réussi à basculer tout ce truc-là de colère et d'aller chercher très très loin en plaisir. Donc, en fait, dès que je prends plus de plaisir, je me dis, hop, stop, modifie ton effort, là, tu te fais mal, alors, essaie de retrouver le plaisir. Et du coup, je reviens un peu à l'essentiel, à, ce qui m'anime, ce qui est beau autour de moi, et ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui.
Alors, Vanessa, dans ton entraînement, qu'est-ce que tu vas mettre pour finalement préparer de la meilleure des façons ces expéditions à travers les montagnes, même si du côté de Font-Romeu, tu as déjà un terrain de jeu qui est propice à ce type d'expérimentation. Quel va être, sur une semaine, ton entraînement type? Qu'est-ce qu'on va trouver dedans?
Alors déjà, sur une semaine, c'est 7 jours sur 7 d'entraînement. Ça, c'est un choix qu'on a fait avec mon entraîneur, Alvaro. Parce que ça me correspond. En fait, on s'est rendu compte que en période de stage, par exemple, si j'ai 6 jours d'entraînement, ben le jour off, je vais pas être à l'aise avec ce jour-là. C'est limite de la culpabilité ou de la perte de temps et tout. Et donc même s'il me disait, ben non, tu t'entraînes pas, j'allais faire un tour de vélo. Mais au final, ce tour de vélo, ben ça reste du travail musculaire, du travail d'endurance ou voilà. Ou j'allais faire une rando ou voilà. Donc, on a collé ça, les 7 jours sur 7. Après, souvent, on va doubler. Donc, je peux avoir, par exemple, renforcement musculaire le matin, une bonne grosse séance et vélo l'après-midi. Le lendemain, je peux avoir une sortie en course à pied de 2h30. Donc ça, je vais tenter de le caler le matin, puis faire un peu de vélo de récup le soir. Après, j'ai les sorties longues aussi. Donc, j'ai à peu près 2 sorties longues par semaine en course à pied. Donc là, ça peut être du 4, 5 heures, 6 heures, voire plus. Ça dépend un peu. Après, je fais énormément. Alors ça, c'est surtout à l'approche des objectifs, mais j'ai vu que c'est assez spécifique d'aller courir à haute altitude. Je m'entraîne beaucoup en hypoxie. Donc là, c'est soit en cabine hypoxique où on va simuler des altitudes allant jusqu'à 5, 6 000 mètres d'altitude. Et là, je vais faire vraiment du travail d'aérobie, c'est-à-dire qu'on va jamais monter en cardio sur ces séances, mais par contre, c'est d'habituer mon corps à s'entraîner avec un stress, puisque là, on manque d'oxygène, hein, clairement. Donc, ça reproduit pas la pression atmosphérique, mais pour autant, ben, tu as quand même un stress, puisque tu désatures, et donc, vu que tu as moins d'oxygène, ben, tu alimentes moins tes muscles. Donc, c'est super intéressant comme travail. Et je dors également en hypoxie. Donc là, j'ai une tente de princesse au-dessus de mon lit. Sauf que dans cette tente, ben la princesse, elle s'étouffe un peu parce que en fait on modifie les altitudes tous les 2 jours à peu près en fonction de mon adaptation. Et là encore une fois sur ces stages, ben l'idée c'est de générer un stress plus. Donc ça veut dire que la nuit, ben je dors moins bien que quand je suis à altitude réelle. Donc je récupère moins bien. Puis en fait j'enchaîne malgré tout les entraînements sur 21 jours. Et au final, ben à la fin des stages en général, je vole quoi. Vraiment, je me reconnais pas. Et surtout, ben, ça prépare mon corps quand je vais courir à 5000 ou 6000 mètres d'altitude. Ben, il dit, ah ben oui, ça, je l'ai déjà vécu, donc ça, c'est un rappel, quoi.
Est-ce que tu penses qu'il y a une mémorisation du corps à ces hautes altitudes et aux sensations que tu vas aller retrouver, comme si on avait un catalogue de sensations à telle altitude et le corps est capable de les retrouver.
Alors, je pense qu'au niveau musculaire, oui, parce que vraiment cette souffrance musculaire, on la ressent assez rapidement à haute altitude. Où tu te dis bah là c'est bon, je peux courir, c'est plat. Ben non, en fait ton corps il veut pas courir parce que il a plus d'oxygène. En fait le corps est super bien fait hein, on va prioriser les organes nobles, donc le cerveau, les poumons, le cœur, mais les muscles on s'en fout un peu. Et donc le fait de t'entraîner en hypoxie, ben tu apprends déjà à t'entraîner avec ce manque là au niveau musculaire. Donc ça je le ressens vraiment sur la montagne, je retrouve les mêmes sensations et je sens bien que mon corps il dit bah OK, on va passer au-dessus. On va s'adapter puisqu'on connaît. Mais après, tout le reste, c'est tellement, tellement particulier, en fait, ce que tu ressens en montagne, que il n'y a pas un endroit à l'entraînement où j'ai pu reproduire exactement ce que je ressentais là-haut. Pas un seul endroit.
Et au niveau des muscles, il se passe quoi? Si tu pouvais le décrire aux auditeurs, au fur et à mesure que tu montes, au fur et à mesure que l'oxygène manque, qu'est-ce qu'on ressent? Ça tire, ça pique, ça brûle?
Ben, en fait, non, t'as l'impression que t'as plus de jambes. Tu sais, vraiment, quand t'es, t'étais mou du genou, comme on dit. Mais vraiment, c'est cette sensation. Ouais. T'as les muscles qui sont limite endormis, quoi, pas atrophiés, mais tu peux pas aller chercher comme quand t'es à basse altitude. Donc tout ça, en fait, le tout, c'est de l'accepter. Moi, je sais que quand j'ai cette sensation, je me dis « Ok, c'est normal, c'était prévu. C'est maintenant. » Donc en fait, moi, je joue vraiment sur la ventilation. J'essaie de fermer les yeux et d'imaginer un peu ce qui se passe dans mon corps. Et je me dis « Ok, envoie du sang frais là, envoie du sang, tu vois, oxygéné à tes muscles. Du coup, je diminue ma respiration et j'ai l'impression de beaucoup mieux distribuer ce peu d'oxygène que j'ai dans le sang. Donc, c'est vraiment une fatigue, une grosse fatigue musculaire.
L'entraînement respiratoire, ça fait également partie de la préparation pour toi?
Ça, je l'ai jamais travaillé. En fait, c'est vraiment le terrain qui m'a appris à me connaître et à gérer ma respiration comme ça. Après, ce qu'on travaille à l'entraînement, par exemple, c'est quand on s'entraîne en hypoxie, c'est mon temps de récupération. C'est-à-dire que je vais faire un effort, je vais désaturer, donc ça, c'est normal. Et là, on sait que moi, par exemple, en une minute, je récupère une saturation normale, sans modifier l'altitude. Donc, en fait, par exemple, sur mon prochain gros objectif, on sait que je vais pouvoir m'accorder plusieurs pauses de une minute pour à chaque fois refaire monter la saturation, récupérer au niveau organique et musculaire, pour pouvoir être dans les temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez indispensable pour ce qu'on va mettre en pratique, quoi, vraiment pour planifier, on va dire, les tronçons sur la montagne et tout ça, quoi, la stratégie.
Alors les sportifs qui te voient en chambre hypoxique pratiquer des altitudes à 4500, 5000, 6000, ils doivent halluciner quand eux viennent du côté de Font-Romeu pour justement charger un peu les globules avec cette altitude. Ils doivent se dire, mais qui est cette sportive qui continue à courir à 4000, 5000, 6000 mètres?
Alors, jusqu'à 5000, maintenant, ça surprend plus trop parce que bizarrement, depuis quelques temps, j'ai remarqué que beaucoup de sportifs s'entraînaient à 5000 mètres d'altitude. Alors honnêtement, faut pas me poser la question de pourquoi parce que j'arrive pas trop à comprendre en tout cas ce fonctionnement. Donc jusqu'à 5000, on voit beaucoup de sportifs qui font des séances d'aérobie en hypoxie à 5000 mètres. Au-delà, ça commence à surprendre. Quand on est à 6000 et même monter la cabine à 7, alors ça on l'a pas encore fait, c'est en cours. Mais là, ça commence à surprendre. Et ce qui est surprenant aussi souvent, c'est que donc là, je suis pas mal suivie au niveau des médias, par exemple, et des fois, on a des caméramans qui désaturent plus que moi. Donc moi, je suis sur le vélo ou sur le tapis, et le mec qui est à côté en train de filmer ou de me parler, il désature plus que moi. Donc ça, c'est vrai que là, ça surprend pour le coup les gens qui sont avec moi dans la cabine, quoi.
Du côté de Font-Romeu, c'est vraiment le centre où tu trouves tout ce que tu as besoin pour réaliser ta préparation, par les infrastructures, par le terrain que tu trouves donc avec cette montagne où tu es né, hein, tu es une fille de la montagne. Est-ce que c'est vraiment cet endroit que tu affectionnes pour réaliser toutes tes préparations en dehors des acclimatations que tu vas faire sur les zones où tu vas ensuite établir tes expéditions et tes courses?
Ben, disons qu'à Font-Romeu, je suis à la maison. Donc, c'est mon berceau, quoi. Donc, je me sens bien et oui, j'y trouve tout. Là, c'est vrai que avec mon mari, on est en train d'essayer de s'autonomiser au maximum pour tout ce qui est hypoxie, parce que Parce que j'ai des projets à très haute altitude et que c'est quand même pas mal de pouvoir être autonome. C'est vrai que de dépendre tout le temps d'une structure, c'est compliqué, ne serait-ce que financièrement, hein, voilà. Donc là, on joue sur l'autonomie. Après, pour l'entraînement en montagne, je connais tellement les lieux que je sors de la maison et j'ai même pas l'impression de m'entraîner, en fait, quand je suis là-haut. C'est vraiment ma vie, quoi. Donc, quand on me dit « Oh, t'en as pas marre de t'entraîner tous les jours ?» Ben, je me suis pas entraînée hier. Ben, si, t'as fait 6 heures de montagne. Ah non, mais ça, c'était… Tu vois, c'est pas, pour moi, c'est pas une corvée, quoi.
Tu le disais, 7 jours sur 7, l'entraînement. Est-ce qu'il y a la peur du manque ou du vide ? Le fait d'avoir une journée qui soit off, là, tu vas t'ennuyer, finalement.
Mais tu vois, là, en ce moment, je m'entraîne pas, parce que je suis rentrée du kili super malade. Donc a priori c'est viral, et quand c'est viral, tu sais, certains médecins disent qu'il faut pas trop s'entraîner pour éviter les risques de myocardite et tout ça. Là je te cache pas que je suis au 3e jour sans entraînement, stop quoi, il faut reprendre là, c'est pas normal. Puis tu sais,
montre-moi tes mains, est-ce que tu trembles
Regarde.
Sans entraînement.
Tout va bien. Mais j'ai même ce problème là au niveau des jambes quand je me repose le soir. J'ai les jambes qui s'endorment, enfin c'est super désagréable, je sais pas si c'est ça le truc des jambes sans repos, je crois pas que ce soit ça, mais pas loin.
Et est-ce que ton mari dort avec sa princesse en chambre hypoxique?
Alors lui il dort les premiers jours avec moi et après on fait chambre à part, donc c'est vraiment des stages à la rude. En fait, on va dire que jusqu'à 3000 mètres d'altitude il dort avec moi, et après non. Parce que moi, c'est toujours progressif. Et lui, quand je suis en stage à Font-Romeu, il redescend bosser sur Toulouse. Donc, quand il revient à Font-Romeu, on a pris 4 jours d'altitude. Donc, s'il dort dedans, c'est un coup à le sécher, quoi. C'est dangereux.
Alors, tu disais être autonome et vouloir autonomiser finalement cette préparation. Ça a forcément un coût derrière, Vanessa, tous ces stages, ces expérimentations avec différentes expéditions à la surface de la planète. Une expédition, si on parle gros sous, ça nécessite combien en termes d'euros mis bout à bout ?
Alors, en fait, ça va dépendre de l'expédition, hein, mais on est autour de 30 000 euros. Voilà, alors pas tout compris, hein, parce que alors un kili maintenant, c'est beaucoup moins cher, mais un kili classique. Après, un kili en courant, forcément, ça demande une logistique un peu particulière. Pour peu qu'il y ait un caméraman, parce qu'on essaie de faire des films de chacune de mes expés, de ramener des histoires. Ben voilà, le billet de 30, il est facile, facile là. Et pour les prochaines, c'est encore un peu plus, quoi.
C'est une autre facette de ton activité, d'aller chercher des sponsors, des partenaires pour t'accompagner, et que ce soit pas tes deniers personnels qui financent ces expéditions.
Alors ça, c'est mon mari qui gère ce côté-là. C'est mon manager. Mais c'est vraiment un boulot à part entière, vraiment, parce que déjà moi je suis dans l'incapacité de me vendre ou de vendre mes histoires. Ce qui nous aide pas mal, c'est que les télés se sont intéressés à ce que je faisais, donc on nous rachète de temps en temps les documentaires et tout ça, mais derrière il y a un réalisateur, il y a une boîte de prod, donc c'est toujours un petit pécule au final pour beaucoup de gens qui travaillent. Et après, quoi qu'il arrive, même avec les sponsors, on a toujours des frais perso, quoi. Mais bon, encore une fois, c'est un choix. C'est un choix de vie. Et on bosse pour. C'est sûr que parfois, c'est pas facile. Mais bon, voilà.
Alors, cette dernière expédition, cette dernière histoire de vie que tu viens de vivre du côté du Kilimandjaro, elle t'a fait connaître Olivier, donc une personne qui souhaitait gravir ce Kilimandjaro avec son fils. Est-ce que tu peux expliquer comment vous avez été amené à vous rencontrer, peut-être virtuellement dans un premier temps, avant de vous rencontrer sur le terrain et de... je vais te laisser, on va pas spoiler. Hein. Tu vas nous raconter comment s'est passée cette ascension.
Du coup, Olivier, c'est une superbe histoire. Il a été hospitalisé récemment. Olivier, il est atteint d'un cancer colorectal depuis 4 ans. Et là, récemment, donc, il a subi une énorme intervention chirurgicale puisqu'il a eu des métastases hépatiques au niveau du foie. Et donc, on lui a enlevé 70% du foie. Et donc là, il est hospitalisé, il cumulait les chimios, mais il les tolérait pas très, très bien. Donc il le gardait en hospice pour faire les chimios. Il allume sa télé et il tombe sur le documentaire 15 pour un sommet. Donc 15 pour un sommet, c'est en fait il y a 2 ans, on a monté une expé avec mon mari et toute l'équipe habituelle où on a amené David Berthier, un ancien rugbyman international au sommet du Kilimandjaro. David, il est atteint de sclérose en plaques. Et donc, on avait Marc Yavremont, Thomas Castagnède, Maurizio, Thomas Zella, vraiment des bons noms du rugby. Et on a monté une équipe de 15, voilà, pour atteindre le sommet. Et Olivier, donc, dans sa chambre, bah, il tombe sur ce documentaire. On venait de lui annoncer à Olivier qu'il était en soins palliatifs. Donc, il prend quand même une grosse claque, hein, chose qu'on peut comprendre, puisqu'il tolère plus les chimios. Donc, on lui dit, bah, écoute, on arrête les traitements curatifs. Et là, en voyant ce documentaire, il se dit, bah, moi aussi, je veux faire le Kilimandjaro. Donc, dans la foulée, il m'envoie un message sur Facebook. Moi, je lis ce message complètement fou. Il me dit, ben voilà, je m'appelle Olivier, j'ai 61 ans, je suis en soins palliatifs, blablabla. J'ai vu le film et je veux faire le Kilimandjaro avec toi. Waouh. Et en fait, ben moi, dans ma tête, j'ai pas réfléchi. Ça a été un oui direct. Mais il fallait quand même que je voie un peu ben, l'état d'Olivier, l'état général d'Olivier, les traitements qu'il avait. Il fallait que je discute avec son oncologue. Et après, ben, indirectement, ça a quand même été aussi pour moi un rappel à mon histoire personnelle avec ma maman. Et donc là, il me dit, je veux le faire avec mon fils. Voilà, j'ai dit, allez, c'est bon, j'y vais. Voilà, on réfléchit pas, c'est leur histoire. Donc j'ai communiqué avec son oncologue qui m'a un peu débriefé la pathologie d'Olivier. Il a stoppé les traitements avant l'expé, on avait tout mis à plat, un gros bilan sanguin avant de partir parce que manque d'oxygène, si le risque de quelqu'un qui a atteint un cancer, c'est vraiment l'anémie. Donc anémie, ça veut dire que moins de globules rouges, donc moins d'apport d'oxygène. Donc ça, c'était les contrôles à faire avant le départ. Il se trouve que son bilan était super bon. Et donc, ben, on a monté l'expé en très peu de temps, hein, puisqu'il m'a contacté en septembre et la semaine dernière, on était sur le Kili, donc en février. Et voilà, et ça a été ouais une aventure de dingue. Humainement parlant, moi c'est une aventure que j'oublierai jamais. Voilà, ça te remet un peu, ça remet les pendules à l'heure comme on dit. Ouais, ça a été un champion. Il a pas bronché durant toute l'expé. Enfin, vraiment incroyable.
Il avait déjà une expérience de la course à pied. C'est quelqu'un qui est sportif. Hein.
Ouais, Olivier, il court tous les jours, vraiment. Il a fait des marathons, il fait du 10 bornes. Et en plus, ce qui est barge, c'est que au moment où Olivier m'a contacté, en fait, moi, j'étais un peu au fond du seau parce que je devais partir sur la Aconcagua pour tenter un chrono féminin. Donc ça, c'était prévu pour février. Et en septembre, je me blesse en courant. Et le jour de ma blessure, en fait, Olivier me contacte et moi, je savais pas du tout ce que j'avais encore. Sauf que là, bon, ben, 4 jours après. Donc, je dis à Olivier, ben, écoute, je suis blessée, machin, là, bon, c'est rien. Et lui, en tant que coureur, il me dit, ah oui, bon, ben, ça arrive sur les séances de piste. Donc, on échange sur ça. Et 4 jours après, je passe une IRM et là, en fait, on me diagnostique une déchirure du TFL, OK, et une énorme tumeur intra-osseuse dans mon col fémoral droit. Donc là, ben, je sors de l'IRM avec ce mot-là où on me dit, oh, mais c'est rien, il y a juste une énorme tumeur dans l'os, il faudra voir un spécialiste. OK. C'est rien, mais quand même, voilà. Donc là, bon, ben, c'est vraiment de combat. Tout le monde se bouge et j'ai eu les médecins du Krebs et un médecin de l'INSEP qui ont vraiment été au top parce qu'en 5 mois, j'ai eu des soins comme j'aurais pu avoir en 2 ans si je les avais pas eu derrière. Bon, la tumeur, elle est toujours là, machin. Puis moi, j'ai en fait, ça fait énormément de dégâts. J'ai un ligament qui a pété dans la hanche, le TFL qui s'était désinséré partiellement. Donc en gros c'est ben la Aconcagua, on le reporte quoi. Et moi j'arrivais pas à accepter de reporter la Aconcagua parce que j'étais affûtée comme jamais, prête mentalement, j'avais tout. Et au final quand Olivier ben m'a lancé sur ce projet, encore une fois ça a été mon médicament. J'ai dit à Olivier ben merci parce que je peux que relativiser ma situation. Et en fait ça a été un reboostant et j'ai repris l'entraînement en fait. Sur le projet d'Olivier. Donc ouais, encore une fois, ça a été une force pour surmonter un peu là tous ces pépins qui m'arrivent, qui au final sont chiants mais pas graves quoi. Ouais.
Avec ce regard d'infirmière, tu as veillé sur Olivier et son fils durant toute la montée pour aller jusqu'au sommet, leur offrir ces magnifiques paysages.
Ouais, alors là, l'infirmière, elle était en alerte H24. Parce que vraiment, on parlait de mécanicien tout à l'heure, mais Olivier, si tu veux, c'est quelqu'un qui a une énorme pathologie, qui touche le foie, mais pas que. Et donc, du coup, il y avait... au début de l'expé, ça allait super bien. Puis après, il a commencé à avoir les premiers signes liés à l'altitude. Donc, un peu de désaturation, une asthénie, donc une fatigue bien présente, un petit peu de perte d'appétit et tout ça. Donc là, je prends la décision. Donc, il faut savoir que derrière, j'ai toujours des protocoles médicaux. Hein. Moi, je suis que infirmière, donc je paramédicalise. Mais derrière, j'ai vraiment un médecin qui est à l'appui. Et donc là, ben, par contre, sur la montagne, je suis toute seule. Donc là, ben, je prends la décision de le mettre sous Diamox. Donc, c'est un diurétique qui fait qu'on évite les œdèmes. Sauf que quand tu prends du Diamox, il faut bien s'hydrater. Sauf que Olivier, il a eu des troubles digestifs qui jouaient sur sa déshydratation. Donc là, il se déshydratait. Donc moi, je me disais, bon, alors attends, il faut que je rééquilibre le diurétique parce que s'il pisse trop, il va trop se déshydrater. Puis après, il buvait plus. Mais donc du coup, s'il boit trop, ben, il va stocker de la flotte. Donc il faut que je redonne du diurétique. Enfin, vraiment, ça a été du sur-mesure H24. Même la nuit, je me réveillais, je me disais, bon, là, il doit hypoventiler. J'espère qu'il désature pas trop. Que machin, enfin, vraiment, ouais, ça a été... Pour moi, en tout cas, c'est le plus bel objectif, le plus gros objectif médical, paramédical que j'ai atteint. Voilà.
Quels sont les mots de ces personnes que tu accompagnes au sommet de cette montagne, ce qui représente un défi, hein, mais ce qui peut redonner un élan, peut-être, dans ces conditions de fin de vie qui sont pas toujours simples pour des personnes frappées par le cancer. Mais ces personnes, quand tu les accompagnes, qu'est-ce qu'elles te disent une fois que vous avez terminé cette aventure, que vous êtes redescendu en bas du Kilimandjaro?
Là, les mots d'Olivier, par exemple, ça a été « sans toi, ça n'aurait pas été possible ». Et au final, mais sans lui, ça l'aurait pas été non plus. Mais souvent, c'est ça. Les mots d'Olivier, en tout cas, ça a été ça. Et pour moi, c'est super fort parce que, comme je t'ai dit, moi, je me sens tellement vivante là-haut que là, tu vois, on parle de fin de vie. Moi, là, je parlais avec Olivier de reste de vie. Et en fait, je voulais absolument qu'il se sente vivant comme ça. Et là, je l'ai eu encore hier et il est remonté à balle. Il a 10 000 projets en tête et voilà, et tant mieux, quoi. Tant mieux qu'il continue à se projeter. Et il est super positif, donc c'est top.
De ton côté, ça t'a redonné la force, l'envie d'aller préparer donc cette Aconcagua. Ce sera donc un petit peu plus loin que février 2024. C'est reporté par la force des choses. Mais avant, est-ce que tu as envie de développer ces accompagnements de personnes frappées par une maladie pour leur permettre de relever ces défis et de se dépasser, tout simplement?
En fait, moi, c'est vrai que maintenant, ça fait vraiment partie, c'est vraiment ce qui m'anime, hein, d'amener des personnes atteintes de différentes pathologies. Après, il faut savoir que c'est un travail d'équipe. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis jamais toute seule. Donc, la gloire, il n'y a pas de gloire. La gloire, elle est, pour moi, elle est à Olivier, elle est à tous ces gens-là qui se bougent. Et surtout, le message, je pense, qu'il y a à faire passer, c'est que tout le monde a droit. On disait là pendant l'expé, d'ailleurs, je crois qu'il y a un podcast ou un truc qui existe comme ça, c'est le record du monde de son monde. Et en fait, j'adore cette phrase parce que je pense que tout le monde sur Terre a droit à son record du monde de son monde. Et c'est un peu avec les personnes malades, chacun a droit à son objectif, chacun a le droit de poser des objectifs barges et hauts. Et voilà, le tout, c'est de pas se mettre en échec et de pas se briser le moral, mais en tout cas. Moi, je suis convaincue que chaque personne, du moment où elle pense à un objectif, c'est qu'à un moment donné, elle a cru qu'elle en était capable, donc elle en est capable. Et moi, je sais que je donne toute ma force pour que les objectifs arrivent au bout. Et si on doit les modifier, modifier un objectif ou reporter, c'est pas un échec, quoi. Et même si ça se passe pas comme prévu, c'est une expérience, mais il n'y a pas d'échec. Donc moi, j'encourage les personnes à suivre ces projets. Et j'en ai encore d'autres qui arrivent là pour le mois d'août. Avec un jeune homme qui a atteint de sclérose en plaques et c'est la vie, quoi.
C'est un petit peu ce qu'on évoquait avec Marie Léauté qui a fait un tour du monde en courant. On parlait justement de la fixation des objectifs. À partir du moment où on voit le chemin, entre guillemets, qui est possible jusqu'à cet objectif, comme tu le disais tout à l'heure, hein, on va découper par petits objectifs, comme tu découpes ta montée vers le Kilimandjaro. On met des petits jalons et on essaie d'avancer petit à petit vers cela. Donc pour toi, le prochain gros objectif personnel, Vanessa, ce sera cette montée de l'Aconcagua. Donc là, on est aux confins de l'Argentine et du Chili et c'est 6962 mètres en tant que prof d'histoire géo. C'est ce que me donnent finalement mes repères géographiques.
C'est ça, c'est exactement ça. Et là, c'est le colosse argentin. Hein. C'est la Aconcagua, c'est encore un step au-dessus du Kili. On n'a pas les mêmes conditions météo. Bon, il est au niveau technique, on va dire que c'est un sommet qui se court. Pas sur l'ascension. En tout cas, oui, les 22 premiers kilomètres, on peut trotter, mais après, ça devient super raide. Donc voilà. Là, c'est un gros objectif. Donc, comme je te disais, je devais y être au mois de février, là, ce mois-ci. Il se trouve qu'on m'a trouvé ce problème dans la hanche. Donc là, ce qui complique un peu les choses, c'est quand même qu'avec la tumeur qui est bénigne, hein, mais qui prend beaucoup de place dans l'os, il y a un risque de fracture, puisque chez le coureur de fond, on connaît tous, je pense, la fracture de fatigue. Donc moi, c'est vraiment ce qu'il faut que j'évite. Parce que si on arrive à une fissure, une fracture de fatigue, l'os va péter. Et là, si ça pète, ben, vu l'emplacement, à part une prothèse de hanche, il y aura pas trop de solutions, je pense. Donc là, en fait, on a réadapté complètement l'entraînement. Et en fait, dans mon malheur, j'ai encore beaucoup de chance parce que donc je suis une patineuse à la base. Et là, on a réintégré le patinage à ma préparation pour la Aconcagua. Donc, quand je suis en stage, j'ai 4 jours d'entraînement sur glace où on va travailler le cardio, l'endurance musculaire, ça limite les impacts. J'arrive vraiment à me mettre dans le rouge, même au niveau des lactiques, des lactates, je flambe un peu. Donc voilà, en fait, moi, j'ai l'impression que la Aconcagua, là, ça va être l'aboutissement, tu sais, ma fin de carrière, un peu, j'ai 40 ans, j'en ai marre. Mais voilà, de me dire, je vais aller chercher ce FKT, j'en rêve. Il est beau, hein, il est en 20 heures, donc là c'est une équatorienne actuellement qui l'a. Et donc voilà, on l'a reporté à janvier 2025. Mais ça va arriver très vite au final parce que c'est déjà dans moins d'un an. Donc voilà, je me dis, ben, si j'arrive à aller chercher ce FKT, tu vois, j'ai repris le patinage, j'aurai mon FKT sur la Aconcagua. Et après, j'irai commencer, ou en tout cas, tenter un 8000, qui est le Manaslu, en suivant pour voir si. Ben, arrêter ma carrière, ça va être compliqué vu mon hyperactivité. Mais en tout cas, modifier, on va dire, et peut-être, pourquoi pas, aller tenter quelques 8000 dans la chaîne de l'Himalaya. On verra. Voilà. Mais le prochain, c'est la Aconcagua.
Encore de beaux projets devant toi avec cette année de préparation qui s'ouvre. Et je l'espère, la réussite au bout de cette année. Donc, rendez-vous en février 2025. Est-ce que tu peux peut-être indiquer à des personnes qui souhaiteraient t'accompagner, parce que tu l'as dit, hein, c'est quand même financièrement une grosse enveloppe, par quels moyens on peut venir à toi pour t'aider, Vanessa?
Voilà, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et voilà, après, je fais beaucoup de conférences, donc il y a aussi des entreprises qui me font intervenir. Et en fait, les rémunérations des conférences, ben, c'est un peu aussi la tirelire de la Aconcagua, donc voilà.
Alors, j'avais une dernière question, mais je ne sais pas si on va réussir à trouver une réponse. Ce serait cet instant à côté de tes pompes. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas donc dans ta blouse d'infirmière, avec tes proches ou en train de t'entraîner? Qu'est-ce qui anime finalement tes journées, ce côté un petit peu passion que tu aimes faire, mais quand tu n'es pas en lien avec le sport?
Honnêtement, c'est juste profiter de ma famille, des enfants, de mon mari. Voilà, je pense que c'est mon autre passion, c'est ma famille.
Eh bien, merci Vanessa. Je te souhaite une très belle préparation pour cette année vers la Aconcagua. Et pour les auditeurs, si vous avez envie de suivre les pas de Vanessa, vous pouvez la retrouver du côté de Font-Romeu, où tu es régulièrement en stage, on l'a bien compris.
C'est ça. Ben merci beaucoup.
Et chers auditeurs, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram, laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet, sujets en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport, c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.